Déjà à cette époque-là, enfin, vous avez un regard critique sur la manière dont est géré le parti. Vous êtes au courant des purges qu'il y a déjà eu à la fois en Union soviétique et en France?
Non. Non, vous allez trop vite en besogne. À la vérité, à la sortie de la guerre, nous sommes comme tout le monde. À ce moment-là, Staline, c'est le vainqueur de Berlin. Encore.
C'est la fin de la bataille historique de Stalingrad, qui se termine par une victoire totale de nos troupes.
Nous avons connu les histoires de Moscou, des procès même avant la guerre. Nous avons, je suis probablement l'exemple unique d'un homme qui avait de très grandes responsabilités sur certains plans en liaison avec les soviétiques, qui n'ait jamais mis les pieds en Union soviétique. Jamais, jamais, jamais. Voilà.
Vous allez souvenir de nombreuses personnes qui ont été exclues ou mises sur le côté, ou excommuniées, pour ainsi dire, du Parti communiste.
Absolument, absolument. Bien, tout le monde connaît les histoires de Guingouin. Il y a un nombre énorme, mais le plus éclatant, c'est évidemment Charles Tillon. Charles Tillon était un héros de la mer Noire. Il était marin dans la flotte qui était à côté de l'Union soviétique au moment de la révolution de 17. Et il a été un mutin de la mer Noire.
C'est-à-dire qu'il était dans la flotte française et il a refusé. Il a été.
Et il a soulevé son bateau pour empêcher de s'attaquer à la révolution naissante. Et pendant la guerre, il a été l'un des trois dirigeants, avec Duclos et Frachon, de la direction clandestine du Parti communiste français. Alors, c'était évidemment quelqu'un d'exceptionnel, jusqu'au moment où Torres a jugé qu'il le dérangeait. On a fini par dire qu'il avait fauché des sous dans la caisse. Moi, j'ai connu Tillon personnellement. C'était l'honnête homme dans toute sa splendeur. Le simple fait d'oser dire ça, ça disqualifie quelqu'un qui le fait. Mais ils n'ont pas hésité. Il faut se souvenir, sur les photos, les gens disparaissaient.
Aussi au sein du Parti communiste français?
Ah, parfaitement. Le secrétaire fédéral de Meurthe-et-Moselle peut vous dire que, avant de me rencontrer, il avait regardé dans les archives et il avait découvert des archives où mes photos étaient tout simplement découpées.
Alors, pour ce qui est de Tillon, finalement, il y a eu un vote. Comment ça s'est passé?
Vous retournez le fer dans la plaie, là. Vous avez de mauvaises intentions.
Non, je n'ai pas de mauvaises intentions. Je voudrais comprendre, comment ça se fait.
À ce moment-là, c'est vrai. J'ai une longue vie publique et une longue vie militante. Vous évoquez le seul acte que je regrette. J'ai voté le texte le condamnant. Je me sens mal à l'aise d'avoir néanmoins, avec tous les autres, avec tous ceux qui savaient ce que je savais et qui avaient la même pensée que moi. Alors là, c'est très important. Dans un cas comme ça, nous savons qu'il y a quelque chose qui n'est pas admissible. Comment se fait-il que nous ne disons pas « nous ne marchons plus » À ce moment-là, je suis l'élu des mineurs et des sidérurgistes de Lorraine. J'ai directement travaillé avec eux. Je me suis battu avec eux contre le comité des forges. C'était une satisfaction permanente. Je mangeais chez eux, je dormais chez eux quelquefois, mais c'était chez moi.
Vous voulez dire que finalement, le Parti communiste, vous avez apporté ce rapport au peuple, enfin à la classe ouvrière? et vous craigniez, si jamais vous vous coupiez du Parti communiste, si jamais vous formuliez, par exemple, à l'égard de M. Tillon, trop de proximité, d'être écarté du Parti communiste et de devoir rompre.
C'est rigoureusement vrai que je n'avais pas envie de cesser d'être le représentant utile. Nous étions une force motrice de la réalité quotidienne. Et c'était beau.
Ensuite, néanmoins, vous allez devoir rompre, vous allez devoir abandonner toute cette richesse-là.
Eh oui. Il y a des falsificateurs qui réussissent leur coup. Par rapport à un certain nombre de cornichons, Staline était un falsificateur qui réussissait ses coups. D'ailleurs, s'il ne réussissait pas ses coups, il les tuait. Quand ça ne marchait pas, il... Bien.
Alors, en 1953, justement, Staline meurt. 3 années plus tard, il y a le rapport Khrouchtchev. Et c'est un peu le rapport Khrouchtchev qui va vous valoir, finalement. Enfin,
ce qui est vrai, jusqu'au 20e congrès, c'est que l'ensemble de l'entreprise n'est pas connu. Vous avez Koestler, vous avez Kravchenko, vous avez ceci et cela, vous avez des éléments.
C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on peut encore penser que ce sont des dérapages, des dysfonctionnements.
Arrive le rapport Khrouchtchev. Dans le texte, toutes les données majeures sont rassemblées. Quand vous demandez qu'est-ce que c'est le stalinisme, vous avez pour la première fois, tout y est, toutes les données caractéristiques de ce que constitue le stalinisme sont sur la table. Le seul moyen de le contester est de dire que ça n'existe pas. C'est ce que fait Torres.
C'est-à-dire qu'ils en ont la lecture, ils le lisent, ils le voient, et ils disent néanmoins, ce rapport n'existe pas.
Absolument, sans hésitation. D'abord, effectivement, le Parti communiste français en nie l'existence, tout bonnement. Alors, Pronto, avec qui j'avais des rapports depuis très longtemps et depuis la Résistance, il me demande de venir un matin tôt au bois de Boulogne à Bagatelle. Et il me donne le rapport.
Là, je trouve ça franchement très étonnant. Bon, on voit le Parti communiste français suit Staline, accepte les diktats de Staline tant que Staline vit. Mais même quand Staline n'est plus là, quand le Parti communiste d'Union soviétique choisit une voie plus libérale, le Parti communiste français fait le choix et plus stalinien que le Parti communiste d'Union soviétique.
Ce qui est important, c'est que non seulement il s'y oppose, mais encore, en Union soviétique, il y a autour de Molotov et de quelques autres un noyau d'anciens staliniens avec qui ils maintiennent des rapports.
C'est-à-dire que là, le Parti communiste français, incarné par Maurice Thorez, cherche à remettre la fraction restée stalinienne au Kremlin, ou à Moscou, il cherche à remettre en selle la fraction stalinienne.
C'est historiquement indiscutable. Nous sommes un certain nombre, et je suis fier d'être de ceux-là, qui avons dit très explicitement, nous ne cautionnerons pas le maintien de cette démarche. Et nous acceptons la mort politique plutôt que de cautionner cette démarche. Et nous savions parfaitement ce qui allait arriver.
C'est-à-dire que vous prenez la parole comment, au comité central, vous prenez la parole au bureau politique.
Alors au début, y compris au sein du comité central, de temps en temps, il y avait ce que nous appelions les gardes mobiles. Dès que l'un d'entre nous disait quelque chose, il commençait à dire des grossièretés, à nous traiter de traîtres. Alors, à un moment donné, Torres vient devant le comité central et il explique que De Gaulle est en fait un agent de l'impérialisme américain. Alors, j'écoute ça. Et le lendemain, je demande à être reçu par la direction du parti. J'explique que la formulation de Torres, non seulement n'est pas un combat efficace contre De Gaulle, mais que ça renforce De Gaulle. Parce que c'est pas vrai. Parce que De Gaulle est réellement opposé sur certains points à ce que veulent les Américains. Alors on m'écoute, et c'est sur ce... Alors j'ai un texte que je donne. Et sur ce texte, on décrète que depuis des années, je suis en état de duplicité, de mensonge, de trahison, que je suis gaulliste. Ces méthodes, qui étaient des méthodes de basse police, ce sont des milliers et des milliers de gens qui avaient été des gens dévoués, des gens complètement désintéressés, qui, à la manifestation du moindre désaccord, étaient irrémédiablement condamnés et méchamment écartés. La manière, par exemple, dont j'ai été mis à l'écart, c'est une réunion du Comité fédéral de Meurthe-et-Moselle, où ils envoient leurs représentants, qui sont des grands personnages de la direction, dont il ressort que je suis un homme d'une totale duplicité qui depuis des années cachait ses opinions et qui en vérité est un gaulliste camouflé et des choses de ce genre. Je sais ce que c'est dans la salle de fête de Haut-Boué en Meurthe-et-Moselle que ça se passe, et le représentant de la direction, quand il a fini, je m'approche de lui, je le regarde dans les yeux, je le connaissais de longue date, et je lui demande « Est-ce que tu crois ce que tu viens de dire ?» Le plus étonnant, c'est qu'il a osé me dire « Oui ». Moi, quand je suis parti de la réunion dont je viens de parler au Comité fédéral de Meurthe-et-Moselle, j'ai fait le tour de la salle, j'ai serré toutes les mains, sans aucune exception. Il n'y en a pas un seul qui l'a refusé. C'était un signe aussi.
Et donc à ce moment-là, vous savez que vous êtes limogé du Parti communiste
Je sais parfaitement que je n'ai plus rien à en attendre et je n'en attends plus rien.
C'est un véritable gâchis de forces militantes, de gens qui avaient envie de s'engager auprès des moins riches de ce pays, à qui on a ôté des moyens de transformation de la société, finalement.
C'est absolument indiscutable. La vérité, c'est que de ce point de vue-là, on a privé la gauche française de l'essentiel de sa force motrice. Parce que c'est cela qui constituait la force motrice depuis des années. Le Parti communiste, à certains moments, il a annoncé près d'un million d'adhérents. Bien, peu importe, à quelques cent mille près, ça n'a pas d'importance. Mais c'est vrai que c'était par centaines de milliers. Et alors, pendant des années et des années, pendant 30 ans, tous les ans, on annonçait encore des adhésions qui souvent allaient au-delà de 100 000. Ça veut dire quoi ? Bien, ensuite, ils s'en allaient. Mais ça veut dire que des millions de gens en France sont passés par là. Des millions. Ça n'a aucun sens de dire que tous ceux qui y sont passés étaient des staliniens. Ça ne veut rien dire. C'était au contraire des gens qui avaient un idéal social, qui avaient un idéal politique, qui voulaient faire, et qui étaient dans l'ensemble désintéressés et prêts à des sacrifices, et en tout cas prêts à faire quelque chose d'utile. Bien, c'est ceux-là qui ont été les victimes. C'est ceux-là. Et il est évident que c'est un gâchis absolument phénoménal, pour le dire en deux mots. Ceux qu'on a virés, ceux qui ont parlé, qu'on a virés, nous autres, si on nous avait écoutés, en tout cas, ça aurait été moins mauvais. C'est absolument certain.